France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment les objets techniques nous transforment ? La science pleut littéralement sur nous. Nous sommes de plus en plus entourés d'objets techniques, de plus en plus complexes, et nous sommes de plus en plus en interaction avec eux, ce qui, je me rends compte, fait beaucoup de plus en plus. À l'évidence, cette pluie d'objets techniques nous change en profondeur, autant qu'en surface. Mais de quelle façon ? Dans son livre « Comment l'esprit vient aux objets », le psychiatre Serge Tisseron identifiait 4 fonctions successives aux objets techniques. Ils sont d'abord comme des esclaves, disait-il, des esclaves qui rendent des services dont nous ne pouvons plus nous passer. Ils deviennent ensuite les témoins d'histoires que nous partageons avec eux, puis les complices d'actions plus ou moins avouables, enfin les partenaires d'émotions et de relations quasi intimes, au point de pouvoir susciter de notre part haine, envie, désir ou détestation. Prenons l'exemple de nos téléphones portables. Il est clair que loin d'être neutre, ils remplissent ces 4 fonctions, notamment la dernière, avec une efficacité stupéfiante. Ils sont des partenaires émotionnellement investis, que l'on tient à la main comme on tiendrait une autre main, nous dit Serge Tisseron. Notre vie psychique serait-elle en train de nous devenir périphérique ? Autrement dit, de se déposer en partie dans les machines qui nous entourent. Ou bien allons-nous nous-mêmes devenir comme des objets, à force d'être continuellement leurs partenaires de jeu ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Beignet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, et vous venez de publier aux éditions Hermann un livre intitulé « N'être plus qu'un objet », avec comme sous-titre « La tentation d'oublier la vie ». Vous pardonnerez ma voix enrouée. Je rappellerai pour commencer que je vous avais reçu en 2012, je crois, pour un livre que vous aviez publié à l'époque intitulé « L'homme simplifié ». Le syndrome de la touche étoile, ouvrage dans lequel vous expliquez que le langage est de plus en plus soumis aux standards de la technique, du coup il est voué aux simplifications. Quand la machine et l'homme fonctionnent de conserve, disiez-vous, la première impose son format au second qui se trouve ainsi limité et mutilé dans sa capacité à dire et à accueillir l'étrange, le nouveau, le subtil, l'étonnant, le drôle. Les machines nous simplifient la vie, mais elles réduisent aussi nos comportements à la logique de leur fonctionnement qui est dépourvu d'ambiguïté, d'ironie ou d'émotion. D'une certaine façon, disiez-vous, les technologies dites intelligentes nous rendent un peu bêtes. Est-ce que vous avez changé d'avis ?
Et non, hélas, je n'ai pas changé d'avis et j'ai le sentiment qu'il y a eu une accélération dans ce que je décrivais. En vous écoutant et rappeler mes propos de l'époque, je me dis même que j'étais presque angélique en incriminant les machines de nous dicter leur mode de fonctionnement. Parce que aujourd'hui, la chose a pris une dimension beaucoup plus préoccupante. On ne cesse de dire ces temps-ci que en octobre ou en novembre 2023 est arrivé l'incroyable, et l'incroyable, vous le savez, c'est ChatGPT, dans lequel on voit effectivement le paroxysme de cette simplification de l'humain que j'ai essayé de décrire en 2012. Et en même temps, c'est la manifestation même de la vérité des propos de Serge Tisseron que vous venez de rappeler. Hein, cette espèce de délégation de l'émotion sur une machine comme ChatGPT. Donc, je crois que le passage de 2012 à 2025, pour moi, c'est une source de réflexion parce que on doit se demander en quoi est-ce que les objets techniques qui nous transforment, mais se sont eux-mêmes transformés dans un sens absolument extraordinaire.
Mais qu'est-ce qu'il y a de philosophiquement nouveau dans cette évolution technique ? Est-ce que vous avez vous-même été surpris par appelons-les comme ça, les performances de ChatGPT, oui. Le fait que une machine qui est asémantique est capable de produire des phrases qui pour nous ont du sens, est-ce que c'est des choses que vous aviez envisagées? Est-ce qu'elles vous ont surpris?
Oui, elles m'ont surpris, hein, même si le miracle de ChatGPT n'est pas un miracle à mes yeux, parce que il incarne ce que dès les débuts de la cybernétique, on pouvait prévoir. À l'époque de Wiener, on travaillait déjà à traiter le signal dans un sens qui a été pris en charge par ChatGPT. Mais pour vous répondre philosophiquement, ce qui m'apparaît clair, c'est que on parlait en 2012 encore de machines en tant que automatisme qui nous suggérer de nous comporter nous-mêmes automatiquement pour pouvoir interférer avec elle. Hein, c'était ça l'axe directeur de mon propos. Hein, plus nous traitons avec des machines, plus nous devons nous comporter nous-mêmes comme des machines et donc simplifier notre comportement, évacuer les nuances et les ambiguïtés qui font de nous des humains, etc. C'était cela, c'était l'automatisme que j'avais en...
Évacuer l'imparfait du subjonctif,
complètement,
par exemple.
Bien sûr, et les adverbes, et les adjectifs, etc., pour ce qui concerne le langage. Mais même au niveau comportemental, la gestuelle même que nous imposent les machines nous contraignait vraiment à l'élémentaire. Aujourd'hui, les machines n'évoquent plus vraiment les automatismes. Les machines se sont complexifiées en un sens assez étonnant. Elles deviennent capables d'autonomie et de mobilité, ça c'était déjà le cas, mais elles deviennent capables d'approximation. Et l'approximation, c'est l'indice même de l'humain. Je cite à plusieurs reprises Gilbert Simondon, qui est un penseur de la technique tout à fait remarquable, hein, qui explique que tant que les machines sont dans les automatismes, nous pouvons encore nous les garder à distance.
On reste dans la cybernétique.
Mais dès lors que les machines sont capables d'imiter nos hésitations, nos approximations, nos ambiguïtés, à ce moment-là, elles deviennent beaucoup plus humaines et elles nous mettent en demeure d'avoir un comportement à leur égard qui est un comportement, alors Simondon dit, c'est un comportement d'amitié. Il faut faire ami avec les machines, dit-il. Hein, c'est la chose la plus essentielle qui soit.
Oui, mais il dit aussi que pour être ami, il faut comprendre quelque chose de l'autre.
Bien sûr.
Or, on ne comprend pas comment marchent les machines. Voilà. On pourrait même dire que leur convivialité nous éloigne de la science qui les rend possibles. Chacun peut utiliser son iPhone, enfin son smartphone, sans lire de notices. D'ailleurs, il n'y a pas de notices. Personne ne sait comment ça marche. Et ça n'est nullement un handicap pour l'utiliser dans toutes les fonctionnalités qu'il propose.
Voilà, c'est ce que Simondon n'avait pas prévu, effectivement. Hein, c'est cette espèce de paroxysme de l'approximation qui confine à ce que les ingénieurs appellent l'explicabilité. Les machines ne sont plus explicables. Hein, on n'est plus devant des dispositifs qui pourraient être analytiquement décrits et déconstruits.
Alors l'explicabilité, c'est aussi le fait que les machines sont capables d'expliquer les jugements qu'elles portent ou les avis qu'elles rendent. Et ça, elles ne le font pas bien.
Mais non,
et donc, on doit leur faire confiance pour suivre les avis qu'elles recommandent.
Bien sûr, les machines, elles fonctionnent. C'est leur efficacité qui leur donne leur autorité.
Mais est-ce que vous-même, Jean-Michel Beignet, vous utilisez de temps en temps ChatGPT?
Ça m'arrive, de temps en temps.
Donc ça vous est utile?
Ça m'est utile, effectivement. Mais je ne suis pas technophobe. Hein. Je pense que les machines ont plus que leur vertu hein, pour nous aujourd'hui. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on me tord aussi le bras. Hein, et que, au lieu d'aller chercher l'encyclopédia Universalis, si je vais chercher Google ou ChatGPT, je commets un péché de paresse hein, qui devra se payer hein, d'une manière ou d'une autre.
Et vous allez payer comment?
Voilà, comment je vais payer? En bitcoin.
Alors, j'ai parlé de l'iPhone, enfin du téléphone portable dans mon propos introductif. Vous en parlez vous-même, et d'ailleurs, dès les toutes premières pages de votre livre, vous citez Alain Damasio, qui dit ceci, « Un iPhone ne se possède pas, il vous possède. Il impose sa façon unique de l'utiliser. Le pouvoir du fabricant n'a pas besoin d'être manifesté, il se love dans l'interface, c'est elle qui décide ce que vous en ferez ou pas. Autrement dit, il y a une sorte de transfert d'autorité, c'est l'objet qui commande le sujet.
Bien évidemment, c'est cela, hein, et c'est ça que j'essaie de décrire, cette espèce d'inversion de la relation sujet-objet hein, qu'imposent les machines. Nous ne sommes plus des sujets ayant l'initiative de demander, d'exiger, etc., à des objets qui seraient, eux, inertes, mais dotés néanmoins de l'aptitude à répondre. Nous ne sommes plus dans cette situation-là, nous sommes de plus en plus dans la situation d'être nous-mêmes des objets devant la machine fonctionnant comme un sujet et cherchant à nous arracher quelque chose, hein, m'arracher mon profil, m'arracher mes modalités d'existence, etc., pour en faire précisément un objet de consommation. Hein, donc c'est ça, hein, si on n'est pas capable de voir que nous sommes en réalité les objets des machines et non plus les sujets, nous sommes dans une forme de cécité qui est un peu dramatique.
Mais dans votre livre, Jean-Michel Beignet, le mot « objet » revient très souvent, comme dans votre bouche à ce micro. Il y a un autre mot qui dit à peu près la même chose, c'est le mot de « chose », qui n'est pas son synonyme. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une chose devient un objet ? Quelle est la différence ? Est-ce que c'est une promotion ?
Oui, d'une certaine façon, puisque c'est une manière de passer à la mise à disposition. Là, la chose est beaucoup plus indéterminée, beaucoup plus indéfinie que l'objet qui, lui, est clairement circonscrit. L'objet, il est découpable dans le réel, dans la réalité. L'objet, il est situé dans l'espace et dans le temps. Il est nommé.
Il est là.
Il est là. Hein, il est devant moi.
Disponible.
Ou il est contre moi. Mais en tout cas, il est disponible, effectivement. Il est de l'ordre de l'ustensilité. Hein, alors que la chose reste dans un halo, dans une espèce d'approximation.
Alors vous citez à ce propos François Dagonier, qui a écrit un livre dont le titre m'échappe.
Éloge de l'objet.
Éloge de l'objet, dans lequel il dit que... Enfin, il essaie de définir cette différence entre la chose et l'objet. Il dit « L'objet est posé en face du sujet, par et pour lui, comme un adjuvant ou un secours. Il faut donc que le possesseur ou l'utilisateur l'ait façonné de quelque manière pour qu'on le passe du premier genre, la chose, au second, l'objet. »
Voilà.
Est-ce que ça résume ce que vous venez de dire ?
Oui, c'est bien. L'objet, il est toujours le produit d'une activité artefactuelle. Il a fallu le façonner, cet objet, pour qu'il nous rende service et qu'il appartienne à notre environnement concret.
Dans votre livre, vous citez beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur cette question de l'objet, de la relation que nous avons avec l'objet. Vous citez notamment l'inévitable Heidegger, que j'ai parfois, je l'avoue, du mal à comprendre. Donc je pense pas qu'on va y passer beaucoup de temps, mais il y a quand même une phrase de lui que j'aimerais que vous commentiez, si c'est possible, en termes que je puisse comprendre. Il dit que la choséité est rebelle à la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, c'est assez étrange, mais ça veut dire que cette choséité, elle nous est extérieure. Et en ce sens, elle ne se laisse pas métaboliser par la pensée. Donc, elle est de l'ordre de l'énigme pour nous. Et cette énigme, Heidegger y est très très attaché, puisque elle peut être le support d'une réinterrogation sur l'être qui a été occulté par ce que Heidegger appelle les étangs. C'est-à-dire ces objets que nous manipulons, qui nous submergent. Donc la chose, elle est rebelle à la pensée, en ce sens qu'elle échappe à cette ustensilité généralisée qui nous aveugle et qui nous déborde.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous parlez de Simonton qui disait qu'il fallait faire ami avec les machines, mais comme c'est impossible et qu'on développe avec les machines des liens d'affectivité de plus en plus puissants, c'est remarqué par tous les observateurs, notamment ceux qui s'occupent de la relation que les jeunes, les adolescents ont avec leur portable. Comment est-ce que on peut rétablir de la ou réintroduire de la connaissance technique dans ces objets qui nous parlent, avec lesquels nous interagissons sans rien comprendre à leur fonctionnement.
Oui, ben c'est un vrai défi, hein, défi qui relève de l'éducabilité aux objets techniques. Et là, pour l'instant, nous sommes dans le déconcertement et la perplexité. C'est ça qui rend effectivement l'époque, notre époque, à la fois exaltante et effrayante. Mais le fait qu'il ne suffise plus de faire amis avec les objets pour évoluer dans le contexte des sociétés technologisées, c'est aussi une façon de voir que ces objets dont l'amitié n'est plus assurée, ils nous invitent plutôt aujourd'hui à les imiter. C'est l'imitation des objets qui vient prendre la place de l'amitié à laquelle Simondon voulait nous inviter. Et c'est ça un peu la problématique générale de mon livre, hein, de comprendre que aujourd'hui, ce à quoi nous sommes conviés, c'est à calquer nos comportements sur celui des objets. Fusionner avec eux, c'était l'expression la plus basique qu'on pouvait entendre sous la plume des écrivains de science-fiction, dire voilà, il faut fusionner avec les objets. Alors fusionner avec les objets, c'est soit devenir un cyborg en introduisant dans nos anatomies de plus en plus de dispositifs techniques et cybernétiques, hein, mais fusionner avec les objets, c'est aussi réaliser une relation d'empathie avec eux, à tel point que nous nous mettons à leur place, hein, et Serge Tisseron a écrit aussi un livre sur l'empathie artificielle, hein, pour signaler cette modalité de la fusion avec l'objet qu'est cette espèce de coïncidence émotionnelle avec...
Mais il me semble que Gilbert Simondon va encore plus loin en disant qu'on est, nous, les humains, nous sommes déjà dans les objets. Il dit, il faut sauver l'objet technique, un peu comme il est question de la salvation humaine dans les Écritures. Je crois qu'il y a de l'humain dans l'objet technique et que cet humain aliéné peut être sauvé à la condition que l'homme soit bienveillant à son égard. Il faut en particulier ne jamais le condamner.
Oui, oui, il y a quelque chose de très...
C'est un peu too much, non ?
Oui, oui, c'est très christique. Enfin, c'est le Simondon évangéliste, là, qui est relativement discret quand même dans son œuvre. Je dirais presque heureusement, parce que là, ça prend une dimension un peu ébouriffante, hein, cette espèce de Golgotha de l'esprit que réaliserait le monde de la singularité technologique. C'est, vous l'avez dit, un peu too much.
Alors, d'une façon générale, la technique n'est jamais extérieure à la vie humaine. Elle y insère ses normes, les compose et nous reconfigure à une vitesse prodigieuse. Qui pourrait faire vivre côte à côte, afin de les comparer, un homme de 1900 et un autre de 2025 frôlerait la tentation d'y distinguer deux espèces différentes. Mmh. Alors, vous allez jusqu'au bout de ce constat en signifiant que, à force d'être en interaction avec des machines, avec des objets techniques, nous allons nous-mêmes devenir des objets. Et, en tout cas, nous le souhaitons. Voilà. Et ça m'a beaucoup surpris parce que nous le devenions, plus ou moins, je peux le comprendre, mais que ça soit associé en plus à un désir.
Voilà, c'est ça.
J'ai été étonné.
Oui, mais c'est ça le véritable mobile de l'écriture de mon livre, hein, c'est essayer de comprendre ces manifestations d'attachement aux objets qui vont jusqu'à la volonté de coïncider totalement avec eux. Alors, dans mon livre, le deuxième chapitre de mon livre commence par une anecdote que j'ai puisée chez Gunther Anders, le philosophe du XXe siècle, qui raconte qu'il est allé voir à l'hôpital un de ses amis qui est en train de mourir, et il a eu la surprise d'entendre cet ami gémissant dire « Ah, si seulement je pouvais être un objet, si seulement je pouvais être un objet, si je pouvais être une boîte de conserve qui conserverait de moi ce que je suis. » Et donc le discours de cet agonisant a beaucoup bousculé Gunther Anders, hein, qui l'a pris vraiment au mot, hein, et qui... par ailleurs, philosophe de la technique, et philosophe ayant perçu chez ses contemporains une espèce de sentiment d'impuissance à l'égard de la technologie, on a conclu que cet agonisant, donc, avait le sentiment que l'objet pouvait être toujours réparé, pouvait être conservé, pouvait être amélioré, pouvait être immortalisé. Hein, et l'idée que nous pourrions, nous, ces fabricants d'objets, être capables d'imiter ces objets, mais au fond, ce serait exactement la satisfaction de l'immortalité que l'espèce humaine est censée poursuivre depuis toujours.
Jean-Michel Millier, vous m'accorderez que ce monsieur a dit ce qu'il a dit parce qu'il était agonisant. Il ne l'aurait pas dit s'il avait en pleine possession de ses moyens.
Voir seulement. Voir si il n'y a pas également une propension chez nous à nous dire que cette mort qui nous est résolument promise pourrait être évitée si nous étions capables d'exploiter la technologie que nous déployons pour ces objets. Le transhumanisme, réunit à peu près tous les gens qui considèrent que on doit tout miser technologiquement sur la longévité et voire l'immortalité. Hein, l'idée que nous fabriquions des objets potentiellement inusables, immortels, ou dont la mort est toujours le produit d'un calcul, d'une décision, hein, se dire qu'on est capable de faire ces objets et que pour nous-mêmes, nous serions menacés de rester dans la vulnérabilité, la fragilité, le chaotique qui est le nôtre. C'est ça qui devient insupportable. La mort devient une injustice, hein, dans un monde où la technologie est capable de gérer les obsolescences.
Oui, mais comment, en imaginant que grâce à la technologie, des humains deviennent immortels, comment pourraient-ils le savoir?
Oui,
et comment réagiraient-ils s'ils avaient la certitude d'être immortels? Est-ce que ça ne serait pas insupportable?
Bien sûr, ça c'est une objection, mais c'est l'objection de quelqu'un qui valorise la réflexivité, qui valorise la...
Vous m'accusez?
Oui, absolument, complètement. Vous avez le tort d'être trop...
Trop vivant
et trop consciencieux. Mais imaginez que nous soyons de plus en plus laminés par la fréquentation de nos machines. Imaginez que nous ayons de plus en plus rabattu nos exigences en matière de réflexion, de conscience, d'intelligence humaine. Nous pourrions être ces êtres simplifiés mais qui réagissent avec quelque chose comme un instinct de conservation et qui considèrent que les machines doivent être mises au service de l'amélioration, de l'augmentation de l'humain pour être plus performantes, plus efficaces et puis au bout du compte que les machines puissent nous donner la possibilité d'échapper à la mort. Hein, d'échapper à la mort. Et le sens de mon livre est tout entier là-dedans, hein, cette espèce d'aberration qui consiste à mettre en soi, entre parenthèses, la vie pour échapper à la mort.
Oui, cesser d'être un vivant, finalement, c'est un moyen commode de n'avoir pas à mourir.
Exactement.
Mais il y en a d'autres.
il y en a d'autres.
Plus difficile, peut-être.
Mais celui-là me saute aux yeux, enfin, en tout cas, hein, cette espèce de revendication, hein, d'atténuer les manifestations de la vie pour pouvoir s'assurer la pérennité.
Alors Jean-Michel Beignet, quand j'ai reçu votre livre qui s'intitule donc « N'être plus qu'un objet », comme je vous connais un peu, je m'attendais à ce que vous citiez ou commentiez Georges Bernanos. Or, je ne crois pas qu'il soit cité dans votre ouvrage.
Peut-être pas, mais c'est dommage. Parce que...
En 1943, il a eu cette sorte de fulgurance. Il a fait donner une conférence sur les robots. À une époque où, à mon avis, on parlait très très peu de robots. Il dit ceci, le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre toujours croissant d'hommes habitués dès l'enfance à ne rien vouloir de plus que ce que les machines peuvent donner.
Voilà,
est-ce que c'est pas votre thèse, ça?
Mais complètement.
Vous ne voulez pas citer?
J'ai lu Bernanos après l'avoir écrit. Je l'ai lu, pour tout dire, cet été, cet ouvrage. Et j'ai été également retenu par cette phrase extraordinaire, hein, qui résume vraiment tout le...
Comment est-ce qu'il a pu dire ça dans les années 40, où la question de de l'IA évidemment ne se pose pas, mais même de la robotisation. Et...
Il a assisté à ce que Junger, à l'époque, auteur du Travailleur, dans les années, à la fin des années 30, voyait également, c'est-à-dire cette espèce de fascination pour les objets et cet abandon de soi au formatage. De la vie industrielle, c'est le monde industriel, le monde de la reproductibilité infinie, c'est ce monde-là qui terrorisait Bernanos, qui était très proche du personnalisme d'Emmanuel Mounier, bon, et qui considérait que effectivement les humains étaient en train de se laisser instrumentaliser par leurs propres objets, et les humains étaient déjà affecté de cette espèce de sentiment d'envie à l'égard des machines devenues beaucoup plus puissantes qu'eux-mêmes.
Mais à propos du formatage, vous citez l'exemple canonique du serveur de café dont parle Sartre, qui abandonne son humanité pour jouer un rôle déterminé finalement. Mais est-ce qu'on ne peut pas inverser cet exemple en citant le paradoxe dit de Moravec? Moravec, c'est un futurologue qui a énoncé un paradoxe disant que plus une tâche est facile à exécuter par un humain, plus elle est difficile à exécuter par un robot. Il semble que pour le serveur de café, il ait raison. Les robots imitent mal, jusqu'à preuve du contraire, les serveurs de café, qui utilisent toutes sortes de...
Je suis pas sûr.
Moi, j'ai vu des tests faits par des Japonais, c'est pas du tout convaincant.
Oui, ben non, on peut...
On peut aussi donner l'exemple du coiffeur.
Oui, non, le coiffeur, c'est autre chose, sans doute, mais le serveur de café, bon, la robotique de service qu'on réalise au Japon, notamment grâce aux travaux de Ishiguro, qui est le grand Manitou de la robotique Android, cette robotique de service, elle est très largement investie dans la restauration, dans les services. On voit également beaucoup de robots. C'est peut-être maladroit dans leur mouvement, mais qui sont préposés à répondre aux demandes des clients. Cela dit, l'exemple que j'invoque et que vous rappelez du garçon de café de Jean-Paul Sartre va quand même beaucoup plus loin, puisque ce qu'il prétend quand même illustrer, c'est le phénomène de la mauvaise foi. Ce garçon de café qui se comporte comme un garçon de café, c'est-à-dire qui cherche à imiter les gestes que le client attend nécessairement d'un garçon de café, ce garçon de café, il commet un péché contre l'existence, si l'on peut dire, puisque il se transforme lui-même comme l'objet répondant au regard ou l'attente du client. Donc, n'être qu'un objet pour un garçon de café à la manière de Sartre, c'est fuir en soi-même le flou, l'indéterminé, le vivant, en quelque sorte. Quand vous êtes au café, vous n'attendez pas que le garçon de café se présente à vous comme un être existant, père de famille ou que sais-je. La vie privée du garçon de café vous intéresse.
Sans doute, mais on n'a pas forcément envie de voir débarquer un robot.
Ben non, mais pourtant, c'est imminent, ça débarque de plus en plus. Et malheureusement, je crois que c'est dans la restauration que la robotique de service va de plus en plus s'installer.
Bon, à voir.
À voir.
À voir. Jean-Michel Beignet, vous citez aussi longuement Théodore Adorno, qui a écrit un texte qui s'intitule « Entrer sans frapper », où il me semble qu'il se comporte comme un réactionnaire, disons.
Assurément,
voilà
un réactionnaire.
Dit. La technicisation a rendu précis et frustre les gestes que nous faisons et du même coup aussi les hommes. Elle retire aux gestes toute hésitation, toute circonspection et tout raffinement. Elle les plie aux exigences intransigeantes et pour ainsi dire privées d'histoire qui sont celles des choses. C'est ainsi qu'on a désappris à fermer une porte doucement et sans bruit tout en la fermant bien. Celles des voitures et des frigidaires, il faut les claquer. Il exagère,
mais il est sans doute réactionnaire, mais c'est d'abord un penseur de la résistance. C'est un penseur de la résistance qui cherche à défendre la cause de l'individu dans un monde qui a connu le totalitarisme, et qui connaît ce laminage de la vie moderne. Alors donc, il force évidemment le trait, mais ce qu'il dit là est très clair. Dans un monde où la machine prédomine, nous simplifions nos comportements, et la simplification, c'est une brutalisation en même temps. Brutalisation, et ça, on l'éprouve tous au quotidien, lorsqu'on se plaint de la brutalité des SMS qui ne peuvent plus faire dans la nuance et dans la politesse, c'est exactement ce que l'on dit. Donc Adorno le dit de manière plus spectaculaire, en disant qu'effectivement on est incapable d'ouvrir une porte de manière pondérée, et on la referme également en la claquant, etc.
Pas les frigidaires. Oh. Ça se fait en douceur.
Oui, mais parce que vous êtes hindou. Mais...
Encore une insulte.
mais à vrai dire, on voit fréquemment pousser la porte du frigidaire avec le pied. C'est pas.
Vous parlez aussi de la publicité, en disant que les stratégies qu'elle suit sont particulièrement habiles quand elles entreprennent de réifier les consommateurs en les assimilant aux objets qu'ils consomment. Et vous établissez une sorte de pont symbolique entre la publicité et les stars de cinéma.
Oui.
Vous m'expliquez ?
Oui.
Parce que ça va même plus loin. Ensuite, vous établissez un pont entre les stars de cinéma et les stripteaseuses.
Et les stripteaseuses.
Donc ça demande deux explications.
Bon, alors, deux explications. D'abord, une petite référence. Hollywood lave plus blanc. C'est un livre de Jacques Segala qui a définit en quelque sorte cette mobilisation des publicitaires autour de l'ambition de, comment on dirait aujourd'hui, customiser les produits de consommation. Donc l'idée que effectivement il faut donner une personnalité aux objets pour pouvoir les rendre beaucoup plus interactifs avec les consommateurs. Bon, et toute la publicité télévisuelle est là pour prouver que ces gars-là n'a pas écrit en vain. On est obligé effectivement de donner une certaine vitalité aux objets pour les rendre attirants. Alors, la femme objet, maintenant, son rapport avec cela. Bon, il s'agit là, avec la femme objet, de vendre une actrice.
Là, vous parlez des stars de cinéma.
Des stars de cinéma, bien sûr.
Dont parle aussi Anders. Günther Anders qui dit,
oui,
en un certain sens, la star de cinéma est déjà immortelle de son vivant, mm-hmm, et échappe au destin qui attend tous les êtres de chair.
Voilà, et Greta Garbo est l'exemple que prend Günther Anders. Oui, l'actrice, la femme objet est un thème de réflexion intéressant, puisque là on a précisément affaire à une actrice dont on pourrait se dire qu'elle désire n'être plus qu'un objet. Pour reprendre le titre de mon livre, n'être plus qu'un objet offerte à la consommation et qui demande à être publicitairement activée, de telle sorte d'être la plus désirable qui soit. Mais puisque vous avez lu et évoqué ces pages sur la femme d'objet, ce qui m'a intéressé, c'est surtout les stratégies mises en œuvre par ces femmes objets pour résister à l'objectivation de leur personne. J'évoque Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Madonna, etc. Alors, la femme objet est un terrain de d'interrogation tout à fait intéressant pour montrer à quel point les humains que nous sommes peuvent vouloir mettre entre parenthèses ce qu'ils ont de plus intime, pour pouvoir être j'allais dire vivante dans le regard des autres. Vivante, c'est pas sûr. Et justement, la stripteaseuse, elle est dans cette situation. Alors, je me suis référé, pour rendre acceptable de parler du striptease dans un livre qui est un petit peu un livre de philosophie, je me suis référé à Roland Barthes, qui a consacré dans son livre Mythologie un chapitre sur le striptease. Parce que, bon, le striptease, c'est quand même une activité paradoxale, où, comme le dit Barthes, je crois à peu près, on désexualise finalement une femme en l'assujettissant à des stéréotypes.
Il parle du cache-sexe. Du cache-sexe. Ce triangle ultime, par sa forme pure et géométrique, par sa matière brillante et dure, barre le sexe comme une épée de pureté et repousse définitivement la femme dans un univers minéralogique, la pierre précieuse étant ici le thème irréfutable de l'objet total et inutile.
Voilà.
Il fait des phrases longues, hein.
Un petit peu longues, hein. Vous avez du mérite de citer ces phrases. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous assistez à un spectacle de striptease, ben, finalement, vous n'avez sans doute pas l'émotion qu'on peut attendre de la nudité ou de la dénudation, hein, parce que le comportement même de la stripteaseuse est distanciant par rapport à la situation qui est la sienne. Et au moment ultime où la stripteaseuse nue devrait donner l'essentiel de son intimité, il reste cet objet minéral, dit Roland Barthes, qui révèle que décidément la stripteaseuse est du côté de la mort et pas de la vie. Elle est du côté de l'inerte et pas du vivant.
Vous citez également Jean-Michel Beignet, Jean Baudrillard. Alors lui, on s'attendait à le trouver. Mm-hmm. Qui considérait la société de consommation comme affectée de ce qu'il appelait un cancer de l'objet. C'est quoi le cancer de l'objet?
Le cancer de l'objet, c'est la prolifération illimitée, incontrôlable des objets. Hein, c'est ça le cancer de l'objet. Et c'est notre époque. Hein, c'est l'époque qui a commencé sans doute après la Seconde Guerre mondiale. Hein, et j'évoque Georges Perec et les choses pour rappeler cette espèce de...
Mais il dit les choses, il dit pas les objets.
Oui. Mais ce sont des objets en réalité, hein, ces choses. Ce sont des meubles, ce sont des toiles, ce sont des instruments, etc. Hein. Et donc Baudrillard, qui écrit dans les années 80-90, bon, il constate, mais c'est très très banal à l'époque, hein, que nous sommes saturés d'objets et que
c'est l'objet qui nous pense,
et qui c'est l'objet qui nous pense et c'est l'objet qui nous mange la vie, hein, également.
Il dit, et vous le citez, l'objet est en quelque sorte l'horizon de la disparition du sujet.
Oui, c'est magnifique.
Et vous dites, comment mieux dire? Oui, ben moi, je pense qu'on peut mieux dire.
C'est vrai?
Oui.
Allez, essayez.
Ben non, c'est vous, je vous écoute.
Non, je sais pas.
L'objet est en quelque sorte l'horizon de la disparition du sujet.
Mais oui, moi, je trouve que
commentaire
c'est très
de
bien
texte.
Dit. Ben, dans le contexte, c'est la photographie qui est le contexte immédiat de cette phrase. Et de fait, c'est la description du geste du photographe, le geste idéal du photographe, qui est de s'abstraire, enfin de chercher à s'abstraire éventuellement de la représentation qu'il veut donner. Et c'est l'idée que le photographe pourrait vouloir autonomiser l'objet de telle sorte que il soit dans une extériorité pure. Hein, la vocation du photographe à désubjectiver son point de vue, hein, et rendre l'objet complètement objectif, si je puis dire. Donc, faire disparaître le sujet à l'occasion de la présentation de l'objet.
Enfin, ça va dans tous les sens, Jean-Michel Beignet, parce qu'on peut aussi défendre l'idée qu'on devient animiste. J'ai vu récemment un reportage sur une usine au Japon, et quand une machine a fait son temps, elle est envoyée au rebut, et les ouvriers, les techniciens organisent une sorte de cérémonie.
Oui.
Au cours de laquelle ils lui disent adieu, c'est des sortes d'obsèques de la machine.
Bien sûr. Non, mais ça, la régression animiste à laquelle nous invite la prolifération des objets n'est plus à démontrer.
Et quand vous changez de téléphone portable, vous organisez une cérémonie?
Je pense qu'il pourrait y avoir des individus dans notre société qui procèdent à cela. Hein. On est quand même une société qui a inventé les Tamagotchi. Hein, vous vous souvenez sans doute de ces petits objets, ces petites consoles japonaises, hein, qu'il fallait soigner, qu'il fallait nourrir, qu'il fallait dorloter, chouchouter. Là, s'il n'y a pas d'animisme, alors je ne sais pas où il y en a. Et puis, dans mon livre de 2012, L'homme simplifié, j'évoquais aussi ces soldats en Irak, hein, qui réclamaient qu'on répare leurs robots de déminage.
Parce que l'Américain.
Il s'y attachait.
Alors même qu'il n'avait pas des formes humaines.
alors même qu'ils n'avaient pas des formes humaines. Hein. C'est ça qui est aussi assez sidérant. Hein. Donc même le robot androïde peut être dépassé par un robot qui sera adulé pour son efficacité et pour le service qu'il rend à des humains.
Comment vous expliquez, Jean-Michel Beignet, le fait que, alors même qu'il y a cette pluie d'objets techniques qui nous environnent de plus en plus, les outils ont tendance à disparaître dans Absolument. Les foyers. Ben est-ce que c'est pas contradictoire ?
Non, c'est pas contradictoire. Hein. C'est aussi un aspect que j'ai évoqué. L'objet-outil, c'est un objet qui prolonge le corps. L'instrument, c'est un objet qui prolonge la perception. Et aujourd'hui, avec les objets électroniques, on est passé à autre chose. L'objet crée une situation d'immédiateté. L'objet technique, l'objet virtuel, par exemple, crée une situation d'immédiateté qui anéantit la distance que nous pouvons encore avoir avec l'outil. C'est pour ça que c'est la critique qu'on fait toujours en disant vous déblatérez sur les objets, mais les objets, vous vous en servez ou vous vous en servez pas. Mais c'est plus comme ça. Avec les objets électroniques, on n'est plus dans cette possibilité de choisir ou de ne pas choisir. En ce sens, Internet n'est plus un outil. Hein. Internet est et au mieux une espèce de culture immersive dans laquelle nous sommes contraints de réagir. Mais c'est ça, c'est le caractère d'intermédiation qui disparaît. L'objet électronique écrase cette distance toujours possible où devrait se loger la liberté. Le fait que l'objet électronique ne soit plus un outil signale notre perte de liberté par rapport à eux.
Vous avez cité, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, François Dagonier pour son livre Éloge de l'objet. Oui. Lui, il a fondé ce qu'il a appelé la matériologie. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la matériologie, c'est une doctrine philosophique qui est offensive. Elle va à l'encontre de l'idéalisme des philosophes, de l'idéalisme quasi naturel des philosophes, issu de Platon, dans lequel l'objet était toujours détesté, honni. Le philosophe idéaliste est quelqu'un qui cherche à conjurer et à réfuter l'extériorité de l'objet. On cherche à faire prévaloir l'idéalité sur l'objectivité, les idéalités mathématiques. Et là, le philosophe a évidemment une connivence avec le scientifique, hein, cherche à en finir avec cette altérité qui est une limitation pour la liberté chez le philosophe et qui est une limitation pour la compréhension chez le scientifique. Donc, développer une matériologie, c'est prendre le parti de l'objet, un petit peu à la manière de Francis Ponge, que je cite un petit peu.
Pour le parti pris des choses.
Le parti pris des choses. Donc là, le philosophe matériologue ou objectologue, puisque Dagonier a utilisé également cette expression, prend le parti des choses en annonçant que l'objet est toujours porteur d'une histoire, l'objet est toujours porteur de représentation, de conception du monde, etc. Il est une source d'interrogation pour le philosophe, et cette matériologie, Dagonier lui a donné un sens, le rattachant au matérialisme le plus ancien, puisque contre l'idéalisme, des matérialismes se sont développés, qui cherchaient justement à mettre en avant la fécondité de l'objet contre une spiritualisation un petit peu vaine.
Et comment est-ce que vous comprenez cette phrase de Francis Ponge, justement extraite de son livre Le Parti pris des choses? Il écrit « Notre âme est transitive, il lui faut un objet qui l'affecte comme son complément direct aussitôt. » Autrement dit, l'âme ne peut pas tourner à vide, elle a besoin de...
Elle a besoin d'une altérité, elle a besoin d'un objet, elle a besoin de son autre. Hein, et en même temps, elle fait preuve de son efficacité lorsqu'elle métabolise ou dissout cet autre. Mais toute l'histoire de la philosophie, elle est comme cela. Hein. Chez Hegel, quand vous prenez la phénoménologie de Hegel, le premier moment qu'il appelle la certitude sensible, c'est le moment où la conscience est confrontée à ce qui n'est pas elle, elle est confrontée à ce qui n'est pas elle et qu'elle conçoit à travers la sensation, etc. Et tout le cheminement de la phénoménologie va conduire au savoir absolu, où la conscience découvrira que ce qu'elle croyait ne pas être elle est en réalité le reflet même de son activité conceptuelle ou spirituelle. Donc, déduction, comme disent les Hegeliens, de cette extériorité qui est notre donnée première pour aboutir à ce moment d'assomption où le monde est moi, le monde est en moi.
Je vous propose, Jean-Michel Beignet, une expérience de pensée sous la forme d'un voyage dans le temps. Nous sommes le 11 mars 1878 dans l'amphithéâtre de l'Académie des sciences, qui est comble. Tous les yeux sont rivés et les oreilles tendues sur une curieuse invention, le phonographe de Thomas Edison. Il y a un physicien qui est là, qui s'appelle Théodose de Moncel. Il est assisté du représentant de la société Edison en Europe et il s'apprête à faire entendre les prouesses de l'appareil. Camille Flammarion fait partie de l'assistance et il note, dans l'un de ses livres, « L'appareil se mit docilement à réciter la phrase enregistrée sur son rouleau. Alors on vit un académicien d'un âge mûr, l'esprit pénétré, saturé même des traditions de sa culture classique, se révolter noblement contre l'audace du novateur, se précipiter sur le représentant d'Edison et le saisir à la gorge en s'écriant « Misérable, nous ne serons pas dupes d'un ventriloque ». Ce membre de l'Académie s'appelait Monsieur Bouillot. Fin de citation. Est-ce que vous comprenez ce Monsieur Bouillot ?
Ah oui, complètement. Complètement. Bon, c'est un homme qui a vu dans la reproductibilité que permet la technique, en l'occurrence cette technique phonographique qui permet la reproduction du son, il y a vu vraisemblablement le désordre que ça allait produire sur les individus. Si on peut reproduire le son, la voix humaine, on va attenter à la singularité, à l'événement unique qu'est normalement notre parole. Si je peux répéter à l'infini les manifestations de l'humain, je fais perdre à cet humain cette exceptionnalité, cette irremplaçabilité qui le caractérise. Et c'est l'un des gros griefs qu'on fait effectivement à la société technologique, c'est qu'elle nous rend de plus en plus remplaçables, toujours remplaçables.
Elle nous invite de plus en plus à devenir comme elle, c'est-à-dire à agir comme les objets, mais est-ce qu'on peut pas renverser l'argument en citant François Julien, qui cite l'exemple de l'invention de la photographie au XIXe siècle, qui est une conquérance technique adressée aux artistes peintres, qui font des portraits de personnages ou des paysages. Mm-hmm. Là, la photographie peut faire mieux qu'eux. Or, ils ont inventé ce qu'ils appellent un essor de l'esprit, oui. L'impressionnisme, l'abstraction, oui. Pour éviter la concurrence des machines. Est-ce que nous, on pourrait pas imaginer que, dès lors que nous sommes concurrencés techniquement par les machines, cela nous invite à faire mieux que d'habitude des choses que les machines ne peuvent pas faire.
Oui,
par exemple, inventer des concepts, réfléchir, faire des expériences de pensée, etc.
Bien entendu, c'est un argument qui a souvent été effectivement utilisé, en disant que le monde des machines nous met au défi d'être toujours un peu plus humain, c'est-à-dire réfractaire à la machinisation. Et donc, de ce point de vue-là, oui, on avait dit dans les premiers temps de l'intelligence artificielle, on disait ben, l'intelligence artificielle, elle sera toujours en reste par rapport à l'âme humaine, l'âme étant définie comme ce point de fuite qui est toujours ajourné, remis un peu plus loin au fur et à mesure que les machines imitent les facultés cognitives. Oui, donc je crois que effectivement c'est le mieux qu'on pourrait espérer, hein, que nous soyons invités à être toujours plus humains au fur et à mesure que les machines nous damnent le pion. J'ai entendu ce genre d'argument, par exemple dans les milieux médicaux. Hein, il m'est arrivé de travailler avec des radiologues, qui se posaient la question de savoir s'ils allaient rester radiologues quand la machine est beaucoup plus capable que de déchiffrer des images, etc. Et qui objecter que finalement, si la machine fait leur métier de radiologue beaucoup mieux et beaucoup plus vite qu'eux-mêmes...
Elle ne le sait pas mieux, parce que la machine va dire, là, vous avez une tache rouge, il y a un truc. Mais si vous lui demandez c'est quoi cette tache rouge, elle dit simplement, bah, ceux qui l'ont ont une probabilité assez élevée de mourir dans les 6 mois qui viennent.
Absolument, ça, bon, c'est très bien.
Mais ça, donc c'est pas une explication.
C'est une corrélation, puisque toutes les machines nous invitent à formuler des corrélations.
C'est jamais mieux que ça.
Et c'est pas. Non, ce que je voulais dire à propos du radiologue, c'est que le radiologue tire comme conclusion que si la machine fait mieux que lui, alors il aura beaucoup plus de temps, lui, pour dialoguer avec le patient, ce qu'il ne fait que rarement actuellement. Donc l'idée que l'humanité se nicherait dans ce dialogue que la machine lui ménagerait. Bon, mais je trouve que c'est un argument qui est trompeur, parce que je crains fort que la machine à outrance puisse même exténuer le désir de cette intimité, de ce dialogue, et de qu'on voit aujourd'hui des gens dire qu'ils dialoguent pratiquement toute la journée avec ChatGPT et qui s'en satisfont très très bien, m'effraie plutôt. Hein, si le dialogue réel, le dialogue risqué que nous entretenons toujours entre humains, est supplanté par le dialogue avec des machines à produire seulement des signaux.
Et qui sont bienveillantes.
Et qui sont forcément bienveillantes et qui répondent évidemment à votre demande. Hein, si ces perroquets stochastiques, comme on a appelé ChatGPT, prennent le relais de vos interlocuteurs, je ne vois pas ce qu'on a y gagné et l'objection que vous formuliez, finalement, se révèle tout à fait contournable.
Alors, on approche du terme de cette émission et je ne voudrais pas qu'on achève sans évoquer l'un de vos derniers chapitres, qui s'intitule « La vérité de Pinocchio ». J'avoue que c'est une lecture qui m'a surpris. J'en étais resté à ma lecture d'enfant de Pinocchio, mais oui. Vous y voyez-vous beaucoup d'autres choses.
Ah oui, énormément. J'ai eu à cœur de travailler ce personnage de Pinocchio. Au début, c'est un philosophe qui m'y a invité, Giorgio Agamben, qui a écrit un livre sur Pinocchio.
C'est drôle de voir les philosophes s'intéresser à Pinocchio.
Mais non, parce que Pinocchio, c'est un personnage fabuleux. Hein. Donc Pinocchio, ça a été écrit à la fin du 19e siècle par Collodi. Hein, Collodi, l'auteur de la fable, donc qui commence sa fable par « Il était une fois un morceau de bois ». On le rappelle pas assez souvent. Ce qui m'a intéressé dans Pinocchio, c'est la dernière version, à ma connaissance, de Pinocchio, donnée par Guillermo del Toro, qui a fait un film où il a transposé l'histoire de Pinocchio sous le fascisme italien. Alors, je dis en deux mots parce que ce serait peut-être trop long d'entrer dans les détails, mais si vous prenez la première histoire de Pinocchio, elle est toute simple, elle est rudimentaire. Hein, voilà un monsieur, Geppetto, qui fabrique une marionnette qui est dotée de la mobilité et de l'autonomie et de la parole par une fée. Et ce Geppetto va connaître quand même pas mal de soucis avec cette marionnette plutôt débridée. Et au bout du compte, il va connaître ce miracle absolu de voir sa marionnette transformée en un petit garçon. Donc on a affaire, je vais le traduire comme cela, à un non-humain qui va devenir un humain à travers un certain nombre de métamorphoses, et c'est l'assomption finalement de l'humanité contre ce monde de l'objet.
Inerte.
Dans la version de Del Toro, on a affaire à quelque chose d'autre. On a affaire à un vieux monsieur, un homme, Geppetto, qui a un petit garçon. Il est veuf, il a un petit garçon qu'il adore et qui est adorable, et qui va mourir sous les bombes fascistes. Et désespéré, il va obtenir néanmoins de substituer à ce petit garçon mort une marionnette. Une marionnette qu'il fabrique, qui obtient également vie, mobilité, autonomie par la fée. et par un grillon également, qui est un disciple de Schopenhauer, entre parenthèses, mais
oui,
peu importe.
Bizarre.
Hein, c'est bizarre. Hein. Et en tout cas, l'histoire de ce Pinocchio seconde manière, c'est l'histoire aussi d'une marionnette complètement échevelée qui désespère Geppetto. Geppetto vit cette marionnette comme un réel fardeau. Mais au bout du compte, et moyennant des péripéties tout à fait passionnantes, cette marionnette, à la fin, va rester une marionnette. Mais une marionnette qui aura eu la grâce de sauver son père. Donc une marionnette qui se sera comportée humainement avec son père, qui aura réagi en humain. La leçon de cette histoire, c'est que Geppetto cessera de voir dans Pinocchio le substitut de son petit garçon mort, et qu'il aurait voulu remplacer. Non, la marionnette va devenir un être à part entière et sera aimé pour elle-même.
Mais il va mourir accidentellement, Pinocchio, dans cette histoire.
Il meurt toujours accidentellement.
Heurté par un camion.
Oui, mais il bénéficiera du privilège d'être
recyclable.
Recyclable. Donc sa mort sera toujours une mort renaissance. Un petit peu à la manière dont les animaux pourraient être considérés comme immortels sous prétexte que chaque individu mourant permet néanmoins la renaissance sous une autre individuation. Mais non, ce qui m'intéressait, si vous voulez, pour résumer, parce que c'est un petit peu trop long, c'est ce rapport entre l'humain et le non-humain. Dans la version première de Collodi, manifestement, l'humain a un privilège sur le non-humain. Dans la version deuxième manière, on a affaire à une relation d'humain et non-humain, sans qu'il y ait de préséance de l'humain par rapport au non-humain.
Et on comprend pourquoi ça vous plaît plus que la première version.
Ben,
ça va plus dans le sens de votre thèse.
Ça va dans le sens d'une thèse qui est prospectée très très largement. Hein. Je veux dire, tous les discours d'écologie aujourd'hui, tous les discours d'anthropologie, comme ceux de Philippe Descola ou autres, nous mettent en demeure pour conjurer ce qu'on appelle l'anthropocène, d'être dans une situation où on harmoniserait la relation des humains et des non-humains. Nous appartenons au même écosystème et donc nous avons une espèce de devoir qui n'est pas simplement moral, mais qui est un devoir de survie, hein, de faire alliance avec le non-humain. Donc la deuxième version de Pinocchio me paraît très très consonnée avec cet état d'esprit général.
Est-ce que ce sera le mot de la fin, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le rire demeure le propre de l'homme ?
Je l'ai dit.
Que les objets ne nous le voleront pas.
Oui, ça, oui, les objets ne nous le voleront pas, quoique, pourquoi est-ce que ChatGPT, qui imite fort bien maintenant nos émotions, nos trémolos dans la voix, nos accents, etc.
Il traduit très mal les blagues.
Oui, ça c'est ce que je souligne à un moment donné, mais peu importe. Effectivement, ChatGPT est assez nul en humour, mais il est perfectible. C'est ça aussi le problème de ces objets, c'est qu'ils sont perfectibles. Parce que nous ne sommes pas indéfiniment nous. Donc rien n'empêcherait ChatGPT de devenir désopilant à un moment donné et il nous conduirait à remettre
nos prétentions,
réajuster. Donc je ne sais pas. Mais le rire dont je parle, c'est le rire nietzschéen et là, ça serait une autre histoire.
Merci Jean-Michel Beignet d'être venu à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre livre qui s'intitule « N'être plus qu'un objet », sous-titre « La tentation d'oublier la vie » qui vient de paraître aux éditions Hermann. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la réalisation et à la mise en onde Souad Boukorsa.